RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
RMC Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pendant 2 heures, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Au sommaire de cet after, dans quelques minutes, on connaîtra le Ballon d'Or 2018, Inside Avenir avec Fred Hermel notamment. Nos drôles de dames vont arriver aussi à partir de 22h40, mais avant on aura les infos du jour. Et puis on aura le lendemain de la défaite 4-1 du Stade Rennais contre Strasbourg. Sabri Lamouché a été mis à pied par ses dirigeants aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là? On va se poser la question dans quelques instants avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Bonsoir les gars.
Bonsoir les amis.
Salut messieurs.
Ça va bien les mecs?
Pleine forme, très bien.
Ça va bien.
Ouais.
Affiche de Ligue 2 également ce soir, 17ème journée de Ligue 2. Ça va moins bien?
Oh, c'est une belle affiche.
Ouais, c'est quoi?
Auxerre contre Lorient.
Voilà.
Est-ce à dire que nous allons entendre
Lucien Denis?
Lucien Denis, alors c'est parfait, tout va bien. Alors.
Il est là, Lucien Denis d'ailleurs.
Ah ouais,
il est
complètement.
Là,
je vous écoute, monsieur,
Ça va, Lucien?
Ouais, très bien. Et mon ami Daniel, comment il va?
Bah, bien, mon vieux.
Bon, bah écoute, aussi bien que la GIA, j'espère.
Et Pierre aussi, il va bien.
D'accord, et bah Pierre aussi.
Aussi bien que la GIA, on espère qu'il va mieux que la GIA quand même, Lucien.
Ah ouais, ouais, j'espère. Enfin, ça va. Il y a des prémices du mieux. Voilà, ce qu'on peut dire. Hein. Bon. Ça va un peu moins mal, disons.
Ouais, ça donne quoi, Lucien?
Pour l'instant, 0-0. On est parti depuis une minute maintenant, deuxième mi-temps. On attend les buts, mais ils vont venir, c'est sûr, ils vont venir, je vous le promets.
Oh, le nombre de 0-0 qui se collent.
C'est vrai, t'as raison, Daniel.
Merci beaucoup.
Il faut avoir la foi, hein, lui, il l'a.
Il y a une affiche également en Espagne, enfin un match important du moins entre Levante et Bilbao. Bilbao qui est 18e au coup d'envoi de la 14e journée et qui perd 1-0 à la pause face à Levante. Un partout entre Nuremberg et le Bayer Leverkusen en Allemagne. Un partout entre l'Atalanta et le Napoli. Il reste 20 minutes à jouer dans ce match-là. Et puis ça joue également entre le Rio Ave et le Sporting. C'est de la Liga portugaise, 11e journée. Et on approche de la mi-temps, le Sporting mène 2-1. On vous rappelle les résultats de la 15e journée de Ligue 1. Saint-Etienne a battu Nantes 3-0, 2 partout entre Lille et Lyon. Victoire 2-1 de Montpellier à Monaco. Nîmes a cartonné face à Amiens 3-0, 0-0 entre Guingamp et Nice.
Les résultats de quoi ça?
15e journée de Ligue 1.
Que tu penses que sur Terre, il y a quelqu'un qui ne les connaît pas?
C'est pas impossible.
Le lundi soir.
C'est pas impossible.
C'est nouveau.
Un partout entre Gé, Caen, 2-2 entre Toulouse et Dijon, 0-0 entre Marseille et Reims, 2-2 entre Bordeaux et le PSG, c'était hier soir, et Strasbourg a battu Rennes 4-1, cette lourde défaite de Rennes à domicile face à Strasbourg, qui met Rennes à la 14e place de Ligue 1. Ce matin, 9h36, le Stade Rennais a publié un communiqué, je cite, le Stade Rennais ayant décidé de mettre à pied son entraîneur Sabri Lamouchi, Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe réserve, sera en charge de l'équipe professionnelle durant cette période. Pierre, tu as envie de revenir sur cette info, cette situation du Stade Rennais, jingle du Croc.
En plus, c'est une de mes idoles aussi. Il faisait tout le reste 10 fois mieux, 100 fois mieux que moi, c'est Rai. Ah, il avait le don de faire semblant de défendre et de te laisser la tâche. La
mais c'est parce qu'il voulait te faire briller.
Et je vais assumer le fait de jamais lui avoir dit.
J'ai eu un coup de fil le lendemain, vous avez rigolé, mais le lendemain, j'ai eu un coup de fil, il m'a démonté, quoi. Avec vos bêtises.
C'est ça.
Rai. T'écoutais pas le jingle, Daniel, je t'ai vu.
Ah non, c'est que j'ai pas mis l'oreillette.
Au moins, il est honnête.
Hein. Ah, c'est non, pas vrai.
Moi, il est honnête.
Ah, c'est la fois où j'avais dit que Rai faisait semblant de défendre.
Lamouchi est donc mise à pied.
Non.
Ah ouais.
Lamouchi est donc mise à pied du côté du Stade Rennais. Et toi, alors, tu te poses cette question finalement, comment on en est arrivé là? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, finalement, on était pas mal à être enthousiaste.
Non, je me pose pas la question, cousin. Je fais juste un constat et on a compris pourquoi on en est arrivé là finalement. Mais oui, par contre, là, t'as raison sur une chose, c'est que tout va très très vite en football. On se rappelle, bien entendu, de la saison dernière, de tout ce qui démarre du côté du Stade Rennais, avec, un couple Létang et Lamouchi qui fonctionne très très bien. Je crois que t'avais un petit son.
Tu veux qu'on l'écoute?
Ouais, je veux qu'on l'écoute parce que ça décrivait tout à fait ce qui se passait l'année dernière.
Alors on va se prolonger un an en arrière quasiment jour pour jour. Sabri Lamouchi est l'invité de Tim Duga et il explique à quel point le feeling passe avec Olivier Létang, son président délégué.
Moi, ce que je peux te dire, c'est que les échanges que j'ai eus avec le président Olivier Létang, que je trouve très intelligent, très compétent, mais lui, il m'a harcelé. Il s'est renseigné sur tout. Il m'a tout demandé. Moi, je me suis rendu compte en arrivant ici, j'ai eu un accueil extraordinaire. Et je vois que tout va bien. Tu gagnes, tout va bien. Tu perds. Tout va bien. Effectivement, j'étais emballé.
Ah là, ça c'était bon. Donc il y a un an.
Tu perds, tu vas bien, il perdait moins. C'est ça le souci, c'est qu'il perdait moins à l'époque. Non, mais c'est un couple qui fonctionnait très bien. On en a beaucoup parlé nous ici, on en a parlé d'ailleurs partout, tous ceux qui traitaient la Ligue 1. Ça marchait bien parce que t'avais l'impression que déjà sportivement ces deux garçons, et pour l'avoir dit, Olivier Létang était venu aussi nous le dire dans Breaking Foot, avaient à peu près la même sensibilité foot. On sait aussi que le mercato a été fait et pour l'avoir vécu moi-même de l'intérieur, c'est les choix sont faits ont été faits ensemble entre Sabri Lamouchi et Olivier Létang. Il a peut-être pas eu tous les garçons qu'il aurait voulu avoir, mais tous ceux qui sont arrivés.
C'est comme tous les entraîneurs. Hein.
Oui, voilà, t'en veux toujours plus, mais tous ceux qui sont arrivés, ça a été fait avec l'accord de l'entraîneur de Sabri Lamouchi. Donc tout laisser en tout cas penser que Rennes était sur les bons rails et puis que ça allait progressivement aller crescendo. Alors le mercato, on pourrait revenir maintenant avec le recul, c'est un peu plus facile pour nous. T'as des garçons qui sont à peu près, je dis bien, rentrés dans leur saison. Voilà, peut-être Grenier, Da Silva derrière qui a remplacé un Niagnon par exemple. Mais il y a les deux paris qui ont été faits, c'est Ben Arfa et Mbanyang, qui eux sont pour l'instant abonnés absents, ça fait mal. Donc avec le recul, tu peux te dire que le mercato a été un petit peu loupé. Mais toujours est-il qu'au mois d'août, on est encore ici nous après les 4-5 premiers matchs, quand Rennes a fait 2 victoires, 2 nuls ou un truc comme ça, leur premier match d'Europa League gagné, tu te dis que Rennes est toujours sur sa lancée. Et puis 3 mois et demi après, allez, ouais, pas tout à fait 4 mois après, rien ne va plus. Alors rien ne va plus parce que t'as plus de résultats. C'est souvent par ça que ça commence, bien entendu. Quand t'as les résultats, tout le reste est un peu gommé.
Remonter à 2006-2007 pour trouver Rennes avec 17 points après 15 journées de Ligue 1, par exemple.
Ouais, ça remonte. Hein, ouais. Ça remonte. Hein. Alors je disais qu'avec des résultats, forcément tout le reste est gommé. Sauf que quand t'as plus de résultats, tout le reste ressort un peu. Et comme par hasard, mais c'est pas un hasard, je pense, t'as des problèmes relationnels qui commencent à arriver. Et moi, ce qui m'a interpellé, en tout cas, c'est quand j'ai entendu cette fameuse affaire des fichages ethniques. On pose la question à un moment donné, où sont impliqués directement ou indirectement, ça on ne sait pas, et on ne va pas se permettre de le dire. Mais où sont en tout cas impliqués Marc Westerlop, qui est donc au Stade Rennais, et Olivier Létang. On pose la question forcément en conf de presse à Sabri Lamouchi, et la réponse, quand on l'entend, elle était assez éloquente parce que il se désolidarise un petit peu de ça. Oui, tu voulais
lorsqu'on demande son avis à Sabri Lamouchi sur Marc Westerlop, lorsque le Football Leaks révèle le nom de Marc Westerlop lié à ses fameux fichages ethniques, voici la réponse de Sabri Lamouchi. C'était il y a quelques semaines en conférence de presse.
Non, il ne travaille pas avec moi au quotidien, Marc. Il n'est pas dans mon vestiaire. Non, je ne vois pas avec nous sur le terrain. Qui ne travaille pas avec moi, il est dans mon club. Mais dans mon club, il n'y a pas ce genre de pratique. Après, les décisions doivent être prises par les personnes concernées. Ce n'est pas moi qui dois décider en tant qu'homme, en tant que citoyen, en tant que père de famille. Je suis juste entraîneur du Stade Rennais. Je n'ai pas plus de revendications que ça.
C'est assez clair. Alors, on sait que Marc Westerlop travaille avec les joueurs du groupe pro, hein, très, très clairement. C'est son job. Donc, on sait qu'il travaille forcément avec Sabri Lamouchi. Alors, on va pas le propos là ce soir est pas de se mettre du côté de Sabri Lamouchi ou de se mettre du côté du Stade Rennais en l'occurrence Olivier Létang ou Marc Westerlop. C'est pas le propos. C'est juste que de l'extérieur, on sent que effectivement
c'est tendu. Tu veux dire?
C'était tendu et qu'il y a une sorte de cassure. On sait très bien que Marc Westerlop est très aimé d'Olivier Létang. C'est deux garçons qui adorent travailler ensemble. C'est pas pour rien que Marc Westerlop l'a rejoint au Stade Rennais. Et moi, en tout cas, quand j'entends ça, je me dis. Il y a un truc qui va pas, en tout cas qui est complètement différent du dialogue qu'on avait des deux côtés de Sabri Lamouchi.
Les résultats ils sont devenus moins bons quand même.
Non, les résultats sont mauvais avant. C'est
lui,
ce que
il t'explique ce qui a pu se passer.
Je te dis que justement, je te l'ai dit il y a 3 minutes, Daniel. En fait, quand les résultats vont bien, tout ça à la limite, ça peut s'estomper ou se gommer ou passer un peu inaperçu. Sauf que là, il y a plus de résultats et que tout ça, ça refait surface justement. Et finalement, en 3 mois et demi. Et tu te rends compte que tout ce qui marchait bien, ce couple Létang Lamouchi qui avait l'air de fonctionner parfaitement, tout est remis en cause et plus rien ne fonctionne. Et tu en arrives à la situation où en 3 mois et demi, 4 mois, tu as un entraîneur qui fonctionnait bien qui est renvoyé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, l'avenir nous le dira, ça va très très vite. C'est un peu le constat que je fais, c'est que en foot, dans un club, tu peux jamais prévoir ta saison, quoi, parce que finalement en 3 mois tout d'un seul coup avec un petit manque de résultats un manque de résultats plus 2-3 je vais pas dire des anecdotes parce que c'est pas une anecdote, mais 2-3 choses qui dans le relationnel viennent gripper tout ça et c'est fini.
C'est assez.
Ce qui est dingue, ce qui est saisissant,
c'est très compliqué. C'est très compliqué pour un coach, c'est très compliqué pour un club.
Ce qui est saisissant, c'est de se dire, il y a un an, Sabri Lamouchi faisait une déclaration d'amour à Olivier Létang et Olivier Létang lui rendait, et un an plus tard, voilà.
Et encore, c'est celle qu'on a trouvée il y a un an, mais tu recherches, oui, tu recherches même cet été, et t'en as plein. Tu remontes au début de l'année. Je te dis, nous on avait Olivier Létang ici dans Breaking Sport au début de l'année. Tout allait bien, vraiment entre les deux. Et je veux croire que les deux nous mentaient pas et qu'ils étaient bien ensemble. En trois mois et demi, tout est à l'opposé aujourd'hui. C'est quand même spécial. C'est un milieu où tout va très vite. Et même pour nous, d'ailleurs, dans nos analyses, c'est compliqué, du coup.
Ouais, j'imagine que des deux côtés, il y a dû avoir des choses qui n'ont pas plu. Après, comme tu le dis, c'est vrai, moi, je me souviens, quand Lamouchi a été nommé, rappelez-vous, ça avait été une énorme surprise pour tout le monde. Parce que on s'était dit, où est-ce qu'il est allé chercher Lamouchi, qui avait entraîné ailleurs qu'en France. Et
en même temps, on se disait,
et on avait trouvé trouvé ce choix original, intéressant. En tout cas, pour ma part, j'avais vraiment trouvé ce choix intéressant. Les premiers mots de Lamouchi allaient dans le sens de ceux d'Olivier Létang sur des défauts qu'on a dans notre football et que voulait corriger, parce que Létang avait bossé au PSG et que Lamouchi avait été profondément marqué par ses expériences en Italie quand il parlait de l'exigence. Et moi, il se trouve qu'en plus j'étais allé les voir les deux à Rennes l'année dernière, pour transverser.
Ouais, voilà, ça se traduisait dans leur travail.
Que la façon dont Lamouchi parlait de ce qu'il voulait faire, c'était très intéressant, et que ça concordait parfaitement à la pensée de Létang. Donc les deux étaient sur la même longueur d'onde et ils ont fait une deuxième partie de saison intéressante qui les a emmenés en Coupe d'Europe. Pour ce qui est du recrutement, moi j'ai entendu plein de choses sur un tel était d'accord ou pas d'accord ou ceci ou cela. Je pense que tout a été validé.
Oui, moi j'en suis quasiment certain aussi.
Moi aussi. Donc de ce côté-là, Lamouchi peut pas dire on m'a imposé des joueurs, et Létang peut pas dire Lamouchi a voulu un tel et tout. Je pense qu'ils ont été d'accord. Après, dans les recrutements, c'est toujours pareil.
Oui,
Lamouchi, s'il veut A et que A il est trop cher, et qu'il a B et qu'il dit bon ben ok pour B, même si c'était pas son premier kiff, et que l'autre dit ben je peux te payer que
toujours,
B. On fait ça.
Quand t'es coach, t'as toujours une exigence.
C'est les compromis. Ça fait partie des négos
la plus grande possible
en effectif. Sur les deux joueurs que tu as cités, qui effectivement à mon sens posent un peu problème et n'ont pas dû être gratos au niveau salaire, en tout cas moi je pense qu'à l'arrivée Létang les a pas pris si Lamouchi a pas dit oui, hein, ça j'en suis
sûr. Moi aussi je suis persuadé, ouais.
Voilà, donc effectivement la situation se détériore entre les deux.
Où ça se détériore quand même, c'est assez impressionnant.
Ouais, après j'ai entendu Nico tout à l'heure chez Dugat, j'ai bien aimé ce que t'as dit. Il prend un coach qui est un peu a priori comme ça différent, qui veut travailler sur le long terme en installant des idées qu'on n'a pas peut-être l'habitude d'entendre en Ligue 1.
Mais c'est le cas pour tous les coachs. Ça fait 5 coachs virés en Ligue 1 depuis le début de saison, voilà, avec des mecs un peu novateurs, les Cardozo.
Qu'est-ce qui a pu se passer de si grave pour que leur rapport se détériore au point que que le boss veuille virer l'entraîneur? C'est ça qui est gênant, parce que ok, les résultats sont pas bons, ça on le constate clairement. La seule raison, c'est si Létang se rapproche de l'effectif et que l'effectif lui fait remonter, on le supporte plus.
Je pense pas.
Non mais, ouais. Je dis la seule. Je pense pas non plus.
T'as ni ça, t'as ni la vindique populaire, toi les supporters qui demanderaient l'éviction de Lamouchi. Non mais tu l'as pas eu ça, ouais, du côté de Rennes.
Si je suis président, moi je vais voir le groupe me dit un. Si je vois que je peux imposer, continuer à leur dire, bon fermez vos gueules, c'est avec lui que vous bossez, je fais. Si jamais je peux pas un, je dis bon bah écoute là, ok, d'accord, on se sépare. Mais là, pourquoi?
Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, Létang a traité la défense de Lamouchi en convenance.
Mais ouais, même si les rapports se détaillent. Même te dire la vérité. Alors après, on peut mentir, pas mentir et tout. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il me dit j'ai aucun problème avec Lamouchi. Mmh. Au moment le plus fort de ce qu'on disait être la brouille entre les deux, il me dit non, moi je vois pas, je le laisserai travailler, machin. Donc, voilà, deux mauvais résultats. Ok, t'as une situation. J'ai dit hier, moi si je suis président, je pète un câble. La situation.
Oui, par rapport à la.
Et je ne sais pas si ce pétage de câble me fait virer l'entraîneur. Enfin, j'attends de voir. Comme tu disais, Nico, tout à l'heure dans Team Ligue 1, tu prends des mecs qui sont un peu différents, parce qu'après, ça va donner quoi?
Bah, des résultats. Tu vas prendre un bon produit Ligue 1.
Voilà.
Ça va bétonner, on va encore se merder.
Voilà, tu vas prendre un mec.
Je suis d'accord avec
toi. Alors, peut-être que Julien Stéphan continuera.
Non, mais attends, Pierre, là, t'arrives, le mercato, il n'est pas encore là. Donc, ça veut dire que tu dois faire avec des joueurs qui ne sont pas les tiens. T'as pas fait la prépa physique. Tu t'hérites d'une équipe qui est pas la tienne. Tu vas au plus simple.
Oui, mais il les connaît par cœur. Il est au club déjà.
Julien Stéphan.
Ouais.
Je suis pas sûr qu'il reste, moi, Julien Stéphan.
Moi, je pense que jusqu'au mercato, il restera.
Non, mais cet hiver. Oui, mais là t'as trop de matchs pour que oui, donc ouais, je pense que ça va être ça. Mais
bah ça va dépendre de comment ça se passe.
Mais, ouais, alors après moi j'ai pas réfléchi dans les cordes de Rennes, il y a qui comme entraîneur? Il va aller demander à Laurent Blanc?
Ils peuvent se le payer?
Bah je sais pas moi, peut-être Totti peut baisser son salaire ou Pinot peut allonger, enfin je sais pas.
Il va Ouais, puis je suis pas sûr qu'il va y retravailler avec Laurent Blanc à Rennes, voilà. Je sais pas.
Non, en plus ils s'entendaient, enfin je sais même plus.
Je sais pas la qualité de leur rapport.
Enfin tu vas faire quoi? Tu vas prendre qui?
C'est pour ça que je vous dis que si ça marche surtout là dès le début avec Julien Stéphan, je m'interdis pas de penser qu'il peut rester.
Par rapport aux idées de foot qu'a l'étang, tu peux pas prendre un produit Ligue 1. Il déteste ça.
Ouais.
S'il le fait, il va à l'encontre de toutes ses idées. Lui, son kiff absolu.
C'est le jeu.
Il adore. Tu sais qu'il adorerait comme
Non,
mais qui prendrait là, s'il pouvait, il irait prendre Thiago Motta.
D'accord.
Ouais.
Qui est son idéal de joueur de en plus tu sais qu'il fait du très très bon travail Thiago Motta.
Ouais, je vais même voir les matchs d'Angel. Non mais c'est vrai.
Non mais on te croit.
Voilà, donc là j'attends de voir qui va bien pouvoir.
C'est quand il joue en Youth League, il gagne tout.
Il va pouvoir aller chercher pour entraîner Rennes là.
Ouais, non, pas évident.
Tu disais, il y a pas de vindicte populaire comme tu disais du côté de Rennes. On vous attend supporter de Rennes.
Tu vas forcément, parce que là je te vois mettre ton doigt sur ton écran, on va avoir un supporter rennais. Tu vas forcément en trouver qui sont plutôt d'accord avec le fait que Sabri Lamouchi soit limogé.
Mais
comme tu vas en trouver aussi, je pense autant qui aurait voulu garder Lamouchi. Je veux dire qu'il y avait pas, tu t'entendais pas dans les tribunes Sabri Lamouchi démission, etc. On n'en était pas encore arrivé là.
Non, tu peux avoir des mécontents, mais bon.
Oui, bien sûr qu'il y en a toujours.
Après, c'est vrai que parfois ils faisaient des propos qui étaient un peu bizarres. Il faut aussi le dire.
Salut Guillaume.
Salut Guillaume. C'était très bizarre. Hein.
Salut messieurs.
Alors Guillaume, comment on en est arrivé là alors pour que Lamouchi soit mise à pied, donc écarté de l'équipe première du Stade Rennais? Comment t'expliques ça toi?
Bon, alors moi je pense que la grosse différence qu'on a entre la fin d'année dernière où on a une très belle équipe qui joue bien et qui est assez intéressante et l'équipe d'aujourd'hui, c'est les profils qu'on a recrutés cet été. L'année dernière, on se basait sur une équipe avec du jeu, avec des mecs qui avaient pas forcément beaucoup d'orgueil, qui était soit émergent ou issu du club et qui acceptait de se plier aux consignes du coach.
Qui se fondait dans le collectif, ouais.
Exactement. Et là, on va chercher un Ben Arfa qui joue un peu pour sa pomme. On va chercher, alors ça, le pire du pire, Mbaynyang. Ouais. Plus tôt car tu meurs. Et on va chercher des mecs, alors que ça avait bien commencé. On va prendre Grenier, qui est une super recrue, exceptionnel. Et derrière, je pense qu'il a un peu foiré son mercato parce que je crois que les deux là, Ben Arfa et Nyang, on les chope dans les derniers jours du mercato. Donc je pense qu'ils se sont un peu foirés avec Kazri. Et au final, ils ont un peu paniqué et il a voulu choper deux noms comme ça pour montrer qu'il avait bossé. Mais je pense que le vrai problème vient de là. Parce que c'est des mecs qui rentrent pas dans le profil de jeu qu'avait mis en place Lamouchi.
Ouais, tu veux dire que ça a pu plomber l'état d'esprit de ce groupe qui fonctionnait bien et qui était
exactement.
Moi, je suis pas loin de penser. De toute manière, quand Atem Ben Arfa est arrivé, tout le monde y pense à ça. C'est que c'est un joueur. À un moment donné, faut que ce soit un peu tout centralisé autour de lui. Au niveau du jeu, en tout cas, déjà, je l'entends. Au niveau d'état d'esprit, j'en sais rien, je le connais pas, mais. Je suis pas loin de penser la même chose au niveau de l'état d'esprit.
Sûr, la dernière
donc il y a toujours un danger. Il y a toujours un danger.
Il faut que tout tourne autour de lui. Et enfin, bon.
Quand ça marche, c'est magnifique. Parce que c'est un garçon qui te fait la différence.
Ouais. Merci
ça marche
à Guillaume pas, d'avoir été avec nous. À bientôt, Guillaume.
Merci Guillaume.
Arrêtez
merci
avec cette Guillaume. Légende.
Tiens, on vous donne le résultat, ouais, Nice, le podium, voire même les 5 premières places du Ballon d'Or, du classement du Ballon d'Or 2018, puisque ça vient de tomber. Modric en 1, Cristiano Ronaldo en 2, Griezmann en 3, Mbappé en 4, Messi en 5. Voilà, Varane.
Ah, ça vient de tomber.
7e, dans quelques instants.
Bah, c'est tombé aujourd'hui.
Des cadeaux.
Ouais.
Ouais, ça vient de tomber.
Non, mais ils doivent être super heureux. France Football.
Ah, que ça ait fuité.
Ah ouais.
C'est sûr que ça.
Ah, puis ça a fuité bien comme il faut. Bien avant.
On a eu deux marquages déjà ce matin.
Ça fuite un peu tous les ans.
Ouais.
Autant en avance.
Pierre, c'est super dur. Déjà, moi, je trouve que franchement, ils font le max et ils y arrivent plus.
Oui, j'imagine qu'ils font le max.
Quand tu sais que le mec connaît la décision depuis 2 semaines, le Ballon d'Or, il le dit forcément à sa famille. Dans le vestiaire, les gens du Real sont au courant. L'info, elle se balade. Comment tu veux?
Là, c'est même pas sorti de là.
Le mec est allé faire l'interview à Madrid il y a déjà une semaine. Alors, il se cache, il se déguise pour prendre l'avion.
C'est le fait que ce soit imprimé.
Ouais,
ils sont obligés de le tirer avant, forcément. Et après, il y a des mecs, qui peuvent se balader et prendre des photos également.
En même temps, c'est pas le secret de la CIA, quoi.
C'est
pas le code de la bombe atomique.
On va pas mourir parce qu'on est au courant avant, quoi.
Modric, Ballon d'Or, pas de français, donc, Ballon d'Or. On vous attend 32-16 pour revenir là-dessus dans quelques instants avec des cadeaux à gagner. Le Noël RMC, on arrive à tout de suite avec les pères Riolo et le père Ducrou.
RMC. RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, dans quelques instants, on va revenir sur le Ballon d'Or. Ça vient de tomber, c'est officiel maintenant. Luka Modric, Ballon d'Or, 63e Ballon d'Or, si les comptes sont bons. Luka Modric, donc devant Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé et Messi, dans l'ordre, bien entendu. On va du côté de l'Abbé Deschamps, ça joue en Ligue 2 de affiche de la... C'est la combien d'ailleurs ? 17e journée. Ouais, match entre la JOCR et l'Orient, Lucien.
Depuis 68 minutes et toujours pas de but. C'est vrai que le football, c'est quand même mieux qu'il y ait des buts. Enfin, moi, je préfère. Ouais. Hein. Voilà, toujours est-il que pour l'instant, les buts, on les attend. Il n'y en a pas. 0-0 entre l'équipe de l'Auxerre et l'équipe de l'Orient. Pas de but à l'Abbé Deschamps.
Merci, Lucien. Et puis, c'est le grand Noël RMC. On a des cadeaux à vous faire gagner. Alors c'est tous les jours, sachez que tous les jours on vous fera gagner un cadeau. Vous envoyez Noël au 7-32-16 et chaque jour on vous fera gagner un cadeau. On en fait gagner un en fin d'after, donc voilà.
Surprise, on ne sait pas ce que c'est.
Non, mais il y a une enveloppe dedans avec le cadeau. Voilà, donc vous envoyez Noël.
On l'ouvre en direct. C'est fini le sapin avec les boules.
Moi je trouvais ça marrant aussi.
C'est bien les boules.
Moi j'aimais bien aussi tirer au sort.
En plus toi t'as vu ta tête dans les boules.
Non.
Elle est chelou ta phrase.
Ouais. Quoi? T'as vu ta tête dans les boules.
Non, t'as eu ta tête dans les boules, pas t'as vu.
Ouais, même t'as, même ça, t'as eu ta tête dans les boules, même c'est ça bizarre. C'est bizarre.
Ah, ça dépend lesquelles.
Lesquelles têtes ou lesquelles boules.
Bref, okay, n'importe quelle boule, ça me fait bizarre. 16,
bonne chance à vous. Et joyeux Noël avec RMC, bien entendu. Bah, c'est pendant 3 semaines en plus, hein, donc on va vous gâter, les gars. Classement du Ballon d'Or 2018, donc Modric en 1, Ronaldo en 2, Griezmann en 3, Mbappé en 4,
dire, cousin, tu viens de le dire.
Messi en 5. Alors le trophée Copa du meilleur joueur des moins de 21 ans, c'est une première, a été attribué à Kylian Mbappé. Il a été d'ailleurs attribué par les anciens Ballon d'Or. Voilà, c'est eux qui ont voté pour le meilleur jeune. Ouais, c'est plutôt marrant comme idée.
D'accord.
Ouais. Donc Luka Modric qui devient le premier Ballon d'Or, qui n'est ni Messi ni Cristiano Ronaldo depuis 2007, depuis
caca. Voilà.
Ah oui. C'est le deuxième croate sur le podium depuis.
Croate.
Ouais, c'est le deuxième croate seulement à être sur le podium. Il est premier là, mais il y en a eu un autre seulement qui a été sur le podium. Un croate.
Ah, qui a été sur le podium récemment. Souker.
Exactement. Ah oui, Souker en 90.
Je pensais Ballon d'Or, il n'y en avait pas eu d'autres sur le podium, oui.
Voilà. Mm. Et il aura remporté le prix du meilleur joueur FIFA, du meilleur joueur UEFA et le Ballon d'Or donc cette année en 2018, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du foot.
Très bien.
Voilà, sachez-le. Ah, ça vous inspire quoi, Luka Modric, Ballon d'Or?
Ah ben,
c'est pas fou de penser que c'est mérité quoi. Après ça aurait pu, pour moi en tout cas, ça aurait pu de toute manière ce Ballon d'Or, moi c'est chaque fois ça me gave un peu parce que ça aurait pu aussi être un autre quoi. Voilà, donc pourquoi pas lui, mais pourquoi pas un Varane pour moi, pourquoi pas même un Ronaldo aussi.
Alors il a gagné largement devant Cristiano Ronaldo hein, et il a récolté 753 points, Ronaldo 476 hein, et en 3 Griezmann 347.
Non, il y a plein de choses à dire sur alors, sur
Varane, c'est chaud aussi loin putain.
Sur ce qui s'est passé. D'abord, bon, c'est vrai qu'il y a une tendance chez nous, parce que je ne sais pas comment c'est à l'étranger, je me suis pas rencardé, à dénigrement ou au ras-le-bol du Ballon d'Or. Bon, ok, je veux bien, c'est marrant. En plus, c'est une invention à nous, français.
Ouais. J'en ai pas ras-le-bol, non, mais je trouve qu'on lui donne trop d'importance.
Je t'ai pas dit
en
quoi,
fait,
je t'ai dit, il y a une tendance à...
Ça reste une récompense individuelle dans un sport collectif et c'est toujours un peu...
C'est autre chose.
Bizarre.
C'est autre chose, le... Ce que t'as dit là. Bon, le Ballon d'Or, ça fait donc des années que ça dure, et moi j'ai souvent dit que sans que j'y attache une importance de dingue, ça ne m'a jamais gêné, parce que moi, au contraire d'une idée qui en ce moment fait beaucoup de petits, enfin germe dans la tête de beaucoup, c'est celle que tu viens d'énoncer, comme quoi récompense individuelle pour un sport collectif. Mais Maradona a fait gagner l'Argentine.
Mais parce que ça
Ronaldo
dépend de plein de choses.
Ronaldo fait gagner
aussi.
Le Portugal.
Mais parce que ça dépend de plein de choses.
Parce que c'est des mecs hors du commun.
Mais parce qu'ils sont pas tout seuls, Daniel.
Mais je m'en.
Et ces mecs-là ne font pas gagner leur équipe tout seuls.
Mais Platini fait gagner l'équipe de France. Parce
pas
que Zidane seul. Fait gagner les
Bleus. Non,
Platini.
Alors,
moi, je vais
te
dire.
Mais c'est faux ce que vous dites.
Platini, je vais te répondre qu'autour, il y avait aussi à cette époque-là, Giresse, Fernandez.
Sauf que quand tu parles aux mecs.
Des mecs très forts.
Sauf que quand tu parles à tous les mecs de cette époque, ils te disent que Platini était le mec.
Bien sûr qu'il était au-dessus du lot.
Comme mais, tu parles à tous les Argentins, ils te disent que Maradona a été au-dessus.
Ce que je veux te dire.
Et alors, les
je ne suis pas contre le Ballon d'Or, mais ce que je veux te dire, c'est que Platini, enfin, à un moment donné.
Je vais essayer de terminer quand même deux phrases, si c'est non, possible.
Mais, ouais, bon, tu vas voir. Hey, c'est l'hôpital qui fout la charité, là.
Je vais essayer de t'expliquer. Je veux dire, je pense que les Bulls de Chicago ne deviennent pas ce qu'ils sont sans Michael Jordan.
Bien sûr. Non. Et Michael Jordan, ne gagne pas tout si à côté de lui, il a pas un Pippen, il a pas un Rodman une certaine année, il a pas,
pour le coup, lui, il est pas mal, ouais.
De quoi?
Non, mais je veux dire, t'es calé en NBA, surtout cette époque-là.
Non, cette époque-là, surtout, parce que j'adorais Jordan.
Ça veut dire que tu remets en cause qu'il soit hors du commun?
Non.
Bon. Je te dis que c'est
comme LeBron James, tu remets en cause
ce sport du commun. Je te dis que si à l'époque Jordan joue, je te dis n'importe quoi, mais au Celtic, faudra vérifier. Je te dis pas que le Celtic à l'époque était. Bref, c'est un exemple. Peut-être que Jordan ne devient pas au Jordan, ou en tout cas ne gagne pas autant.
Eh ben.
Parce que c'est un tout, en fait.
Tu me permettras de penser que c'est lui qui sublime.
Je ne te dis pas que ces gens-là sont pas.
Je pense que c'est lui qui sublime le reste.
Et où tu vas en venir?
Oui, qu'il sublime, bien entendu. Ben, je suis d'accord avec toi.
Je pense qu'il y a des mecs hors du commun, comme dans tout, comme dans les acteurs, comme dans un film. La distribution d'un film, t'as le réalisateur, t'as l'acteur principal. C'est lui qui sublime les œuvres. Ça, n'importe quel réalisateur va te le dire, au cinéma, au théâtre. Et dans le foot, c'est la même chose. Il sublime l'effectif. C'est lui qui fait venir les gens au stade. C'est normal que ce soit l'attaquant qui soit récompensé plus que le gardien ou le défenseur. Parce que le foot, ça se gagne devant. Je veux bien qu'en France,
eh ben, tu
on
vois.
A un petit peu de mal à comprendre ça parce qu'on est attaché aux
défensifs. Eh ben moi, je pense qu'au Real Madrid, tous les gens ne sont pas venus au stade pour Modric. Ils sont venus pour Ronaldo, pour Ramos, pour etc., etc.
Je pense qu'ils viennent pour
et aussi pour Modric.
Ok, ben en l'occurrence, après il y a d'autres critères qui sont entrés en ligne de compte cette année. C'est palmarès, ce que tu as fait. Il peut très bien y avoir aussi le.
D'ailleurs, moi,
d'où tu viens.
Je te donne les critères. Je rappelle les critères.
Performance
individuelle et collective, donc palmarès pendant l'année. En deux, la classe du joueur entre parenthèses talent et fair play. En trois, la carrière du joueur. Voici les critères.
Alors, performance ou palmarès, tu dis.
Bah, performance individuelle et collective
sur l'année.
Palmarès.
Ce que t'as fait dans l'année.
Non.
Ah non, alors,
mais il y a les deux, Pierre, c'est le règlement.
Il y a un mot. Non, mais il y a un mot. Performance
c'est individuelle et collective.
Tu peux faire une saison avec des performances énormes et tu perds la finale à la fin ou tu.
Bah, bien sûr,
on est d'accord, c'est pas pareil.
Mais c'est pour ça, quand je me bats à dire que c'est pas simplement quand tu soulèves la coupe que t'es le plus fort aux yeux des gens. C'est une preuve de plus ce soir. C'est comme quand je me tue à dire que quand tu marques l'esprit des gens, ça n'est pas qu'en soulevant la coupe. Je pense que ce soir. Et je sais que c'est inaudible, mais la France prend une sacrée claque dans la gueule avec sa Coupe du Monde. Je pense qu'elle prend une sacrée claque. Vu d'Europe, je me suis tué à le dire dès la fin de la Coupe du Monde. Mais évidemment, c'est inaudible parce que personne ne veut l'entendre ça. Parce que c'est trop dur à entendre. Et la France, ça fait chier tout le monde. Le vote du Ballon d'Or.
Alors,
et dans une de ses composantes, je dis pas principalement.
En fait, c'est quand même trois Français sur les sept premières places.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. J'allais y venir ensuite.
Les votes sont dilués finalement.
J'allais y venir ensuite. L'un des messages, l'une des composantes, c'est aussi que cette équipe de France a ennuyé tout le monde. Et que donc récompenser un mec de cette équipe qui a ennuyé tout le monde, vu d'Europe et du monde, ça n'était pas juste.
Inconsciemment, ça, ils n'ont pas été vers ça.
Et que aller vers le mec qui a un petit pays, petite nation, mais qui emmène son équipe en finale parce
qu'il gagne la Ligue des Champions.
Et qui gagne la Ligue des Champions. En plus, ça a plu. Ensuite, le collectif. C'est-à-dire ne pas avoir un mec peut-être hors du commun, mais le collectif, il est récompensé, même si c'est pas exactement la même chose, mais comme tu as dit très justement, parce que tu as trois mecs dans le top 10. Et ça, je crois que c'est pas souvent arrivé que t'aies trois mecs de la même équipe dedans.
Tout ça, Daniel, tu dis que c'est inaudible.
Voilà, t'as Modric,
tu dis que c'est inaudible, Daniel. Mais en fait, ça l'est pas. Et moi, je peux même l'entendre.
Il y a beaucoup de gens qui vont pas le comprendre.
Et être d'accord avec toi. Mais tout ce que tu dis là, finalement, moi, ça me ramène à un garçon, c'est Varane. À un moment donné, pourquoi Varane qui, dans une équipe de France, mais qui tient la baraque terriblement en équipe de France, qui gagne la Ligue des Champions et qui est très costaud avec le Real.
Je viens de te le répondre.
Ouais, mais disons,
Pierre.
Tu vois, c'est là où, à un moment donné, ça va.
Eh, Pierre, toi qui es agent, fais une révolution quand tu vas traiter les contrats avec les présidents et dis-leur que c'est pas normal qu'un attaquant soit plus payé qu'un défenseur.
Oh, t'as des défenseurs qui sont très bien payés aujourd'hui.
Comment ça se passe?
T'as beaucoup moins de différence aujourd'hui. Alors, si tu écartes les vedettes,
celles qui font venir les gens au stade, celles qui font faire le business des clubs, celles qui marquent les buts, qui font gagner les matchs, c'est des joueurs offensifs ou pas?
Dans l'imaginaire,
c'est collectif.
Donc pour ça que les critères qu'on a cités là sont pas du tout les critères de vote final.
Dans l'imaginaire, sinon tu mets Messi tous les ans. Mais Ronaldo.
Non mais disons c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans.
Parce que les mecs.
Cette année, pourquoi t'as pas un Varane dans les trois premiers déjà.
Parce que tu iras faire ta révolution quand tu feras les contrats.
Non.
Mais les gens.
Donc ces gens-là n'ont pas voté.
Dans l'imaginaire collectif, si tu fais des sondages dans le monde entier, tu dis vos joueurs préférés.
C'est Ronaldo, Messi, Neymar et je sais pas qui.
Maradona, Platini, Cruyff. Ça va être des joueurs offensifs, mais c'est normal, on découvre pas le foot aujourd'hui,
mais
bordel.
Bien sûr que non. Ce qui ne m'empêche pas de dire que pour moi, le Ballon d'Or, finalement, ne reflète pas forcément le tout meilleur joueur.
Il est quand même plus compliqué.
Il est quand même plus compliqué.
Ça reflète le meilleur joueur pour ceux qui ont voté et qui n'ont pas voté forcément sur les critères qu'on énonce. Déjà, même si t'as une liste de critères qui sont établis.
Le mec qui vote, il vote en son âme et conscience.
Voilà. Oui, voilà. Et en fonction de ses goûts,
tu vas voter pour l'élection présidentielle.
On est d'accord. Et en fonction de ses goûts et de ses humeurs.
Non, mais
c'est ce que je veux dire. C'est uniquement ça que je veux dire.
Tu dis performance individuelle. Moi, je trouve pas que Varane, en performance individuelle, il ait fait une meilleure saison que Modric, par exemple.
Non, mais il a pas.
Mais c'est subjectif.
Mais dans son rôle, il a pas fait une moins bonne saison. Je suis désolé.
Deuxième critère, classe du joueur, talent et fair play. Mais c'est pas subjectif, ça. Moi, je vais trouver un mec classe, toi peut-être pas. C'est de la subjectivité totale.
Non, mais si tu veux que la majorité ait pensé que Modric était le plus classe et le plus talentueux, parce que de loin, il l'est.
Alors talentueux, ça dépend quel talent. Non, mais ça dépend quel talent tu veux faire ressortir. Il est bourré de talent, je suis d'accord. Techniquement,
le talent de jouer au foot.
Oui, talent de jouer au foot. Sauf que Varane à son poste, il a pas de talent. Tu lui en trouves pas de talent?
Mais tu préfères voir.
Il est pas classe, Varane, à son poste?
Tu préfères voir jouer
qui au foot? Il
est pas
fair play, Varane?
Est-ce qu'il est plus classe que Modric?
Tu préfères voir qui au foot?
Non, je dis pas qu'il est plus classe. C'est ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, les critères-là, ce ne sont pas ces critères-là qui permettent aux gens de voter, de prendre une décision, ce sont des critères subjectifs. On est bien d'accord.
Demain, tu es président de club. Tu ne peux en prendre qu'un des deux. Tu dois faire signer.
C'est une question con, Daniel. Ah,
ok.
Mais non, parce que tu sais quoi.
Alors, on n'y répond pas, c'est pas grave.
Mais non, si dans mon milieu de terrain, j'ai déjà ce qu'il faut et derrière, il manque un mec, bah, je vais prendre Varane.
Moi, je te dis, tu as le chéquier ouvert, libre. Tu peux prendre l'un des deux, comme tu veux.
Si j'ai un chéquier ouvert, libre, je prends les deux.
Ok, donc tu ne réponds pas, c'est pas grave.
Mais non, parce que ça dépend de critères, Daniel.
Ok, c'est pas grave.
Il joue pas au même poste. C'est pas la même chose.
C'est pas grave. Si tu veux pas comprendre, c'est pas grave. Je t'en donne une autre. Je te pose une autre question. Il est plus difficile de monter une animation et un schéma offensif ou défensif quand t'es entraîneur de foot? Offensif, voilà.
Ça dépend quelle équipe tu as,
Quand tu vois la majorité des schémas tactiques dans le monde aujourd'hui, il est plus difficile en timing de jeu, en difficulté
de
bouger.
Timing de jeu, ça dépend, Daniel. Timing de jeu, qu'est-ce que t'appelles timing de jeu?
En temps pour gérer ton temps de jeu avec le ballon. Et voilà, il est plus compliqué de jouer au foot pour un attaquant ou un défenseur quand tu te retrouves à 2 contre 4 défenseurs, alors que le défenseur est souvent en supériorité numérique face à l'attaquant adverse. Il est plus difficile de jouer au foot quand t'as un attaquant que quand t'as un défenseur.
C'est parce que. Alors là, non. Non, mais non.
Comme un milieu def.
Mais non, mais non, pas du tout. Tout ce que tu me sors là, honnêtement, non, je peux pas te dire. Tu sais quoi, quand t'es défenseur et que tu défends face à un Modric, justement, crois-moi que c'est beaucoup plus difficile d'être le défenseur que quand tu es attaquant et que tu attaques peut-être face à un défenseur, je vais pas en citer, mais des défenseurs qui sont moyens.
Ok, continue de
défendre. Tout est très subjectif, finalement. Ça dépend de la situation, ça dépend des joueurs, ça dépend plein de choses.
On va rester subjectif.
Oui ou non, là, maintenant.
Rester subjectif, je préfère largement un joueur offensif. Voilà.
Mais alors ça, c'est ça. Mais
j'irai au stade pour un joueur offensif.
Mais t'as entièrement le droit.
J'irai au stade pour voir des buts. Après, s'il y a des gens qui préfèrent voir.
Mais tu sais
des
quoi, faisons une équipe avec 10 numéro 10, Daniel. Comme ça sera génial à voir. Puisque les défenseurs ne servent à rien ou les milieux de terrain défensifs ne servent à rien.
L'équipe de France,
on le voit les gardiens. On jouera avec 11 joueurs sur le terrain. Le gardien, c'est pourri avoir joué un gardien.
Je pense que si demain on obligeait un championnat à jouer avec. Que des équipes qui jouent avec des 10. Et que des équipes qui jouent avec des 6. Et tu oblige, on va dire, championnat de France ne doit jouer qu'avec des 10.
Mais tu peux pas, Daniel. Le foot, tu peux pas.
Tu veux faire de l'imaginaire, on va faire de l'imaginaire.
Mais non,
les taux d'influence dans les stades, on va aller voir les équipes avec des 10, monsieur.
Mais non.
Oui.
Tu veux que je te dise un truc?
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de défenseurs qui étaient, et la plupart des...
Je vais te dire un truc, Daniel.
Tu peux finir cette phrase?
Vas-y.
Il y a beaucoup de joueurs offensifs. Il y a beaucoup de défenseurs à l'heure actuelle qui étaient des joueurs offensifs quand ils étaient jeunes. Mm-hmm. Beaucoup.
Oui, c'est très à la mode, notamment sur les côtés.
Pourquoi
les latéraux sont souvent des joueurs offensifs formés en tant que joueurs.
Même des défenseurs, un Laurent Blanc, un Manu Petit,
Parce qu'on demande de plus en plus aux défenseurs de jouer au ballon. Aussi, c'est pour ça. On demande de plus en plus aux défenseurs d'être bons
numéro 10. On préfère le mec qui manie le ballon au mec qui savate le ballon.
Et heureusement, Daniel, mais heureusement, je suis pas en train de te dire que je veux que des bourrins sur un terrain de football. Je te dis pas ça du tout. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de, loin de là.
Il y a beaucoup
d'excentrés, effectivement, qui sont repositionnés beaucoup plus bas aujourd'hui parce qu'on demande offensivement aux latéraux d'être très bons. Non, attends, je vais donner un truc. J'en ai pour une minute. Tu sais que quand tu as été joueur de foot dans un club professionnel, tu t'entraînes toute la semaine. Et très souvent, tu fais des jeux et parfois,
Et je te jure que tu peux appeler n'importe quel joueur professionnel dans n'importe quel club à n'importe quel niveau. Les coachs s'amusent de temps en temps sur des 5-5, sur des 7-7, sur des 8-8. Les défenseurs contre les attaquants. Et ben je te le dis, 9 fois sur 10, les défenseurs gagnent.
Bien sûr.
Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont bourrins et qu'ils pètent les attaquants en deux. Parce qu'à l'entraînement, on fait pas ça quand t'es dans un groupe. Parce que t'as aussi certains talents chez le défenseur de rigueur. Je parle pas de rigueur physique,
derrière,
de rigueur, d'organisation,
les mecs,
etc.
Pourquoi les mecs ils les alignent pas devant le match d'après alors?
Mais non, parce que c'est un tout. C'est ce que je veux te dire. C'est qu'à un moment donné, si tu mets que des défenseurs dans un match,
c'est le joueur offensif. C'est lui le meilleur.
Non, moi je pense que c'est un tout. Alors que tu préfères voir un numéro 10 régaler, je suis d'accord, c'est joli, c'est beau, mais on ne peut pas, une équipe de foot ne pourrait être que
ça. Accueillons Pierre, s'il vous plaît, les gars, qui nous a appelé au 32-16, il veut aussi lui s'exprimer sur ce ballon d'or. On rappelle, Modric a remporté le ballon d'or 2018. Salut Pierre.
Ouais, salut les gars.
Bonsoir.
Bon, comment t'as réagi, toi, en voyant le nom du lauréat de Luka Modric?
Le résultat, j'en suis ravi. Vous parliez de qui était le meilleur, mais le meilleur c'était Modric, hein. C'était pas Varane, c'était pas quelqu'un d'autre. Dans les matchs importants, c'est-à-dire après les fêtes, hein, quand la Ligue des Champions commence, il a été le meilleur à tous les matchs qu'il a disputés. Le seul qui n'a pas été, c'est Cristiano. Le seul qui a été peut-être à son niveau, c'est Cristiano. Même à la Coupe du Monde, ça a été les deux meilleurs joueurs. Je suis vraiment heureux de voir Modric gagner ce soir, puisque ça récompense un joueur mais exceptionnel et vraiment magnifique.
Bon, on est tous d'accord pour ça. Hein. Personne n'est déçu que Modric ait le ballon d'or. Attention, moi j'ai pas dit ça.
Hein. Ah non, mais Pierre,
je dis juste que parfois, c'est
par rapport au résultat.
Tout n'est pas objectif, quoi.
Mais non, mais de toute façon, les critères sont subjectifs.
Ouais, voilà, c'est juste ça que je disais en fait. Exactement.
Comme disait Daniel, quand on en a parlé, je voulais réagir. On sort de plusieurs années. On a vu deux joueurs exceptionnels.
Qu'on a toujours du reste. Hein, mais...
Voilà.
Ouais, Régnier.
Et l'année où ils ne sont pas élus, que ce soit pas un champion du monde qui est élu en lieu et place de Cristiano et de Messi, c'est un vrai message qui est envoyé à la France aujourd'hui. Si l'année où ils ne doivent pas l'être, c'est pas le champion du monde qu'il est, ça prouve qu'on sanctionne notre Coupe du Monde et d'une manière plus large, la manière dont vit le foot dans ce pays, parce que
Pierre, si je peux me faire l'avocat du diable, je connais déjà la réponse de Daniel, mais la tienne, est-ce qu'on peut pas imaginer aussi que la France a gagné effectivement sans beaucoup jouer, ou en tout cas sans régaler au niveau du jeu, mais a gagné parce qu'il y a un vrai collectif, il y avait une vraie organisation, une vraie rigueur collective, et que finalement, ok, pour une récompense individuelle, les gens du coup ne vont pas vers les joueurs de l'équipe de France, mais que aussi dans le foot ça peut exister d'avoir une organisation collective, de mettre un collectif en avant et ce collectif gagne une Coupe du Monde.
Ouais, sauf que ça fait chier tout le monde.
C'est pas négatif
Grecs,
pour autant, tu vois.
Les Grecs en 2004, il y a pas eu un mec qui était candidat au Ballon d'Or.
Non, ça on est d'accord. Non mais la question c'était pour Pierre qui en tant que supporter.
Il y a un autre élément que
tu répondras après. Tu rappelleras demain Pierre.
Pourquoi?
Je voulais sa réponse en tant que supporter.
Ah pardon.
Comment il
Vas-y non après je veux dire.
Pierre est très joli prénom en fait.
Ouais c'est le meilleur.
Il
y a pas beaucoup mieux.
La France a été l'équipe la plus forte de la Coupe du Monde, ils ont gagné en méritant parce que le football on a besoin de tout pour faire une équipe, et on a gagné parce qu'on était les meilleurs. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais il y a un vrai message quand on est ce soir. Il est pas, je le juge pas ce message. Il est que ça emmerde le monde.
Quoi. Les gens n'ont pas fait plaisir.
Personne.
J'ai dit toute la Coupe du Monde.
Pierre, la manière dont ce pays, elle est révélatrice dans la cérémonie de ce soir. On a plus célébré le champion du monde ce soir à la télé devant tout le monde en parlant français, en mettant que Mbappé en lumière, que Griezmann en lumière. Alors que c'est Modric qui est Ballon d'Or. Et moi, j'ai ouvert la télé pour voir Modric Ballon d'Or. Et j'ai l'impression d'avoir revu la France championne du monde. Griezmann, Mbappé, ils ont eu 80% de temps d'antenne ce soir. Enfin, moi, j'ai pas compris, quoi.
Moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'était assez lamentable.
Les gens qui ont regardé la Coupe du Monde. Alors déjà, ils n'ont pas regardé l'émission parce qu'elle est en français alors qu'on parle d'un bon, voilà, c'est même pas en anglais.
La cérémonie, elle était vraiment pour la France.
Non, mais c'est traduit après dans
les... Non, pour le coup, c'était... Alors, tu veux que je te dise, alors, c'est un tout petit détail. On rappelle que quand même la langue de la Coupe d'Europe, c'est le français, c'est marqué en français dessus, parce que
oui, c'est une invention.
Voilà, c'est une invention de France Foot, de l'équipe, etc. Les synthés étaient en anglais, etc. Au contraire, ils ont internationalisé le truc quand même. Ouais. Tu vois, donc c'était pas non plus.
Après, on oublie de dire que la deuxième place, elle est pour Cristiano Ronaldo.
Ouais. Ouais,
tous
ouais.
ceux qui disaient les Français, hein, et le premier n'est que troisième quand même. Et il y a un tweet intéressant de Gaël que je lis à l'instant. C'est vrai que c'est un aspect qu'on aborde jamais, mais le Ballon d'Or est aussi, alors c'est toujours pareil, c'est des petites composantes qui s'ajoutent, mais il y a aussi du lobbying dans l'affaire.
Oui, bien sûr.
Et puis c'est pas forcément représentatif des pays d'ailleurs qui choisissent. C'est un journaliste dans un pays.
Voilà.
Au Portugal, c'est pas le quotidien qui vend le plus de canards. Il y a du lobbying.
Le Real Madrid est très fort pour ça. Aussi, ça aussi, on peut le dire aussi. Je sais pas.
Tous les joueurs sont partis en campagne à un moment donné, on s'en rappelle.
Messieurs, voilà. Les drôles de dames nous attendent. On rappelle donc Luka Modric, Ballon d'Or devant Cristiano Ronaldo et Griezmann, le français donc qui est troisième. On a Mbappé quatrième et on a Varane septième. Les drôles de dames vous attendent, elles arrivent juste après ça.
RMC Football Show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
De Daniel Riolo, de Pierre Ducrot et nos drôles de dames sont là. Alors Fred Hermel sera avec nous sur les coups de 23h avec des surprises, puisqu'il va arriver dans quelques instants, notre Fredo. Il a fait le voyage.
Il croque les ballons d'or, lui. Hein.
Ah oui, de Luka Modric, enfin, du Real Madrid, rien que ça. Simone Rovera est avec nous. Ciao Simone.
Ciao, bonsoir.
Salut Simone. Ils sont où les Italiens dans le ballon d'or là? Il n'y en a aucun?
Donde stai?
Ah bon. Ben, je crois pas qu'il y en ait un dans les 5 ans. Ouais,
Buffon, c'est une année compliquée.
Buffon, non, rien.
Bah, on va répartir vite.
Non, il n'y est pas.
Écoute, si on a un peu mis dans la première liste, après. S'il était là,
il pourrait y être, après tout, pourquoi pas.
Si, je pense qu'il y avait des absents importants dans
cette liste. Messieurs, accueillons Julien Laurence également qui est avec nous. Bonsoir, Julien.
Bonsoir à tous.
Ça va, Julien?
Salut, Julien.
Super, merci.
Oh,
super.
Quel beau dimanche après-midi il a passé, lui.
On va y revenir dans quelques
minutes. Ça ne peut caler.
Il a été accueilli comment, le Ballon d'Or en Angleterre, là, Luka Modric, ancien de Tottenham, justement, on va l'évoquer dans quelques instants.
Ouais, bah justement, hein, c'est pour ça. Les Anglais aiment beaucoup leurs anciens joueurs, notamment. Ils peuvent toujours se targuer d'avoir participé à l'éclosion du talent phénoménal de Luka Modric après ces années ici. Donc forcément, pour eux, il y a pas de scandale sur le fait qu'ils gagnent le Ballon d'Or du tout. Sur la place de Raphaël Varane, je pense que c'est un peu comme dans tous les autres pays, ils ont du mal un peu à comprendre comment ils se retrouvent septième, mais sinon voilà, ils ont relevé la dixième place d'Harry Kane, De Bruyne et Hazard, les autres joueurs de première ligue aussi dans les deux premiers. Donc pour eux, voilà, il y a
Salah 6 ou 7, je sais plus.
6. Salah 6 ou 7, voilà aussi, et puis 6, c'est ça, après Messi. Salah, donc voilà, tu fais 6, 8, 9, 10 pour la première ligue, ils sont plutôt satisfaits.
Et alors Tottenham,
les Anglais, le premier Anglais, il est où, Julien?
Kane 10.
Kane 10, pas mal. 10.
Harry Kane, 10e.
Meilleur buteur du mondial quand même.
Ouais. C'est pas mal. Ah ouais. C'est pas mal.
Et alors toi, tu t'es régalé ce week-end, mon Julien. Voilà, trois derbies. On va commencer par le derby du week-end. Alors le match qu'il fallait très certainement voir d'ailleurs ce week-end. Arsenal Tottenham, victoire 4-2 des Gunners. Match complètement dingue. Arsenal qui a mené 1-0, qui ensuite a été mené 2-1 et qui finalement s'impose 4-2. C'était vraiment un match extraordinaire. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le match référence qui manquait à Unai Emery?
Ouais, alors c'est le match de la saison déjà, sans aucun doute, en première ligue jusqu'à maintenant. On a eu 14 journées, c'est sans aucun problème, sans aucun débat, le match de la saison pour l'instant. Le match référence, bien sûr, pour ce nouvel Arsenal, celui de Unai Emery. Un match beaucoup plus compliqué pour Tottenham et pour Mauricio Pochettino. On reparlera peut-être tout à l'heure de certains de ses choix tactiques, notamment comme de laisser Toby Alderweireld sur le banc de touche, qui est une décision quand même assez incroyable, hein, pour un club comme Tottenham et un entraîneur comme Pochettino. On a eu des polémiques avec cette peau de banane jetée vers Pierre-Emerick Aubameyang après son penalty. On a eu Eric Dier qui fait chute au supporter d'Arsenal après son but à lui pour faire un partout. Mais quand tu fais chute, il faut que tu sois bien sûr qu'à la fin tu gagnes, hein. Parce que si tu perds 4-2 après avoir fait chute
trop tôt, quoi.
Tu passes pour un imbécile. Quoi. Si voilà, c'est ça.
Ça pimente un peu le truc.
Oui, bien sûr. Julien, deux secondes, mais quand on sait comment ça se passe en Angleterre dans les stades maintenant. Le mec qui jette la peau de banane à Aubameyang, je veux dire, soit il a
été arrêté, ça y est là.
Mais c'est ce que j'allais te dire. Soit le mec, il est arrivé, et il a pas de cerveau, il est complètement teubé, quoi. Soit le mec, il sait qu'il remettra plus jamais. Non seulement qu'il va se faire arrêter, qu'il remettra plus jamais les pieds dans un stade. Si son cerveau fonctionne un tout petit peu, il sait qu'il peut pas s'en sortir.
Le mec se dit,
il est malade, le mec.
Tu crois, enfin, c'est si facile de trouver le mec qui a jeté une peau de banane
en Angleterre. Alors là, je peux te dire qu'en Angleterre, le mec, il a arrêté dans la foulée.
parce que c'est pas. Enfin,
tu vois, il y a des gars impossible qu'ils s'en sortent.
Enfin, tant mieux, tant mieux.
Ah, mais... ils l'ont attrappé tout de suite.
Ah, mais ils l'ont attrapé direct en Angleterre.
Mais en Angleterre,
du coup, ils vont.
C'est tout à fait normal. Mais je m'essaye de mettre dans sa tête, mec. Si. Au niveau de connerie, il doit.
La manière pour faire ça, de toute manière, c'est que dans la tête, t'es débile.
Ouais, mais en plus pour te l'afficher. Donc t'es doublement con, quoi.
Non, mais je veux dire, une fois que t'es débile. C'est-à-dire que tu dois pouvoir penser le faire.
Ouais, mais tu peux être débile et aimer aller au stade. Donc en fait, tu te grilles pas pour pouvoir y retourner. Là, tu vas plus jamais y aller, quoi.
Je pense que t'es débile parce que tu penses que c'est rien de grave. C'est ça que je pense.
Oui, c'est peut-être même pire. Ouais, t'as raison, c'est encore pire.
Ouais, mais enfin, il doit quand même se douter que s'il va se faire gauler, quand même.
Ouais. Ou l'italien, il est habitué qu'elle peut tout faire.
Des fois, j'aime bien essayer d'être dans la tête des
cons,
types.
On aura toujours du mal à les comprendre.
Comment ça marche.
Allez, c'est même pas être con, là, c'est être plus que con.
Comment on, comme on dit en Italie, Simone, la mère des cons est toujours enceinte.
Ouais, c'est ça.
C'est
bien.
C'est
comment tu dis en VO, du coup? Comment ça dit en italien?
La madre des crétins est sempre incinta.
Ouais, c'est joli, c'est mignon. Et du coup, ça fait 19 matchs de suite sans défaite pour Arsenal. Alors, qui en plus monte dans le top 4, Julien.
Julien, toi qui vis en Angleterre depuis longtemps, mais quand même t'es français et tu sais ce qui se dit en France. T'avais pourtant prévenu tout le monde en Angleterre que t'avais bien prévenu que Emery était une grosse pipe.
Je voulais boire un café.
J'avais été vraiment objectif.
Parce qu'en France, tout le monde le prenait pour une grosse pipe quand même. Tu le sais ça.
C'est pour ça, c'est en train de plus en plus de ressortir ici en Angleterre. Mais qu'est-ce qui s'est passé au PSG? Pourquoi est-ce que
pourquoi les grands experts du foot en France le prenaient pour une pipe?
Il l'a expliqué. C'est dommage, intéressant.
Oui, mais justement, on continue dans quelques instants. Lucien Denis, c'est fini entre Auxerre et Lorient.
Je vous attendais, j'étais pas impatient parce que j'avais pas grand-chose à dire. Si ce n'est qu'il y a eu 0-0.
T'as bien fait de promettre des buts, toi.
Ouais, exactement. 0-0 à l'Abbé Deschamps, un point pour chaque équipe. Peut-être qu'ils vont se contenter. Les 3819 spectateurs du Stade avaient des chances, sont peut-être pas contents eux non plus. Voilà, il y a eu 0-0, pas de but, pas trop de spectacle, mais voilà, c'est la Ligue 2, ce résultat de la Géosserre ce soir face à Lorient.
Merci beaucoup, Lucien. Bonne nuit, Lucien. Sachez que Levante s'impose 3-0 face à Bilbao, que le Napoli s'est imposé 2-1 face à l'Atalanta, que le Sporting mène 3-1 face à Rio Ave. Julien Laurence nous attend, continue de débattre sur Unai Emery. Arsenal a battu Tottenham ce week-end dans le derby, l'un des derbys d'ailleurs de ce week-end dans l'Angleterre. On revient avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo et Simone Rovera. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot.